Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà Claudine Cohen, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. J'ai envie qu'on fasse un peu de pédagogie parce que moi j'ai dû retrouver un petit peu mes souvenirs d'école, hein, paléolithique, néolithique.
Vous avez de la chance que ce soit enseigné à l'école, hein, en France.
Alors oui, mais les grandes périodes quand même, oui. Non, l'âge de la pierre, l'âge du bronze, l'âge du fer, etc. Tout ça, c'est la préhistoire. Ça dure combien de temps la préhistoire? Pour ce qu'on en sait, puisqu'on a le doute.
La préhistoire, si on considère que c'est à partir du moment où l'homme a fabriqué des outils. Ça fait 3 300 000 ans. C'est ce qu'on a trouvé de plus ancien, les outils qui appartenaient aux australopithèques. Bon, on ne sait pas tellement de choses sur les australopithèques, même sur leur dimorphisme sexuel, c'est-à-dire sur l'aspect de l'homme et de la femme. On n'en est pas très sûr. Hein. Il y a même des gens qui considèrent que deux formes qu'on connaît sont hommes et femmes, et d'autres que ce sont deux populations différentes. Donc vous voyez, on n'est pas encore très fixé sur les Australopithèques.
Tout bouge, hein,
tout se discute. Ouais. Tout se discute.
Parce qu'on sait aujourd'hui que les grands singes utilisent des outils.
Absolument.
Aussi,
hein. Absolument. On parle des cultures chimpanzières. On sait qu'ils fabriquent même des outils, qu'ils ont une double intentionnalité. Ils fabriquent un objet, puis ils vont chercher des fourmis au fond d'un trou. Donc il y a effectivement tout ça a beaucoup bougé. Les Australopithèques qu'on pensait être tout à fait loin de nous, maintenant se sont quand même beaucoup rapprochés. Voilà, il y a une autre lecture de toute cette préhistoire qui est passionnante, hein, parce qu'elle bouge beaucoup, parce qu'il y a des nouvelles découvertes, des nouvelles méthodes. Hein, tout ce qu'on a pu apprendre à partir de l'ADN ancien nous a apporté énormément.
Hein.
Donc c'est très vivant.
Bon, et tout ça est
ça
très très long.
Mort, hein, mais
tout
très
ça
vivant.
Entre l'Australopithèque que vous évoquez et le paléolithique, le néolithique, ce qu'on appelle l'âge de pierre, l'âge du bronze.
Alors le paléolithique, c'est toute cette période. En général, on parle de paléolithique pour le quaternaire, hein, toute la période. Qui va de ce qu'on appelle Homo erectus, hein. Je suis désolée.
Allez-y.
C'est-à-dire les représentants les plus anciens.
La station debout, hein, c'est ça.
Voilà, les représentants les plus anciens du genre Homo. Alors, il y en a en Afrique, on les appelle Homo habilis, Homo ergaster. En Europe, on les appelle Homo erectus. Et en Asie aussi. Et c'est ceux qui ont fait, pour vous donner un repère, les fameux bifaces. Vous savez, c'est ces pierres...
Les silex taillés des deux côtés.
Des deux côtés, et puis qui sont en amande, hein, qui montrent un certain sens esthétique déjà à cette époque. Donc on en trouve il y a 500 000 ans, ou même plus. Et puis, donc, il y a le paléolithique inférieur, il y a le paléolithique moyen, c'est le temps où vivaient les Néandertaliens. Hein, l'homme de Néandertal, et puis il y a le paléolithique supérieur. Alors bon, il y a des gens qui disent pas supérieur, parce que ça fait trop prétentieux, mais qui disent le paléolithique récent, et c'est celui au cours duquel a vécu notre espèce Homo sapiens en Europe occidentale, donc à partir de 40 000 ans à peu près.
Voilà, et puis là, c'est ça qui est dingue, hein, c'est qu'on est à 3 millions d'années, puis tout à coup à 40 000, 11 000,
à 40 000,
3 000.
On connaît beaucoup plus de choses, et là, on peut étudier les différences entre les sexes, on peut étudier, il y a des représentations d'hommes, de femmes, il y a de l'art, et donc avec ça, on peut déjà élaborer un petit peu, faire des modèles, comprendre les choses.
Et tout ça s'arrête en 3 000 avant Jésus-Christ, à peu près, hein, avec l'écriture,
voilà.
Ou du moins
l'invention de l'écriture. La préhistoire se termine avec l'invention de l'écriture.
Où on entre là dans l'histoire.
Dans l'histoire.
Je parlais du doute permanent tout à l'heure. Moi, je trouve ça fascinant. Hein, c'est de dire... voilà, les Gaulois, par exemple, hein, vos ancêtres, les Gaulois, les miens aussi, hein, les Helvètes étaient des Gaulois d'une certaine façon, mais ils n'avaient pas de système d'écriture, a priori. Hein.
Non,
pour autant, ils étaient dans l'histoire, ils n'étaient pas dans la préhistoire.
Donc
on a aussi appris à casser un peu les mythologies d'une science linéaire. Quoi.
Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui a été bien appuyé dans différents livres qui sont parus il n'y a pas très longtemps. Wengrow et Graeber ont écrit un livre qui s'appelle Au commencement, dans lequel ils montrent que c'est pas du tout linéaire, qu'il y a toutes sortes de choses contemporaines.
David Graeber, hein.
Oui. Et que c'est pas non plus un itinéraire obligé vers l'État, vers ce que nous sommes aujourd'hui, mais qu'il y a toutes sortes d'autres possibilités. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, il y a toutes sortes d'autres possibilités. Alors, elles sont plus tellement apparentes, hein, mais il y a d'autres peuples qui vivent différemment de nous. hein, qui ont un rapport même à la nature différent de nous. Peut-être moins destructeur, peut-être plus respectueux.
Hein. Peut-être aussi. Moi, j'imaginais l'histoire dans mon cerveau féministe, de se dire, bon, est-ce que c'est la civilisation, finalement, qui amène à l'émancipation ? On peut se dire qu'avoir inventé des lois, on a mis du temps à avoir des lois d'égalité entre les hommes et les femmes, mais voilà, tout ça est un développement de civilisation et ça va amener à l'émancipation totale et à l'égalité. On peut aussi se dire qu'on a perdu peut-être un sens originel beaucoup plus égalitaire.
Écoutez, quand on regarde ce qui se passait au paléolithique supérieur, hein, au paléolithique en général, eh bien on a l'impression qu'il n'y avait pas tellement d'inégalité. Les hommes et les femmes avaient à peu près la même stature, hein, était robuste, on n'a pas de traces de violence. Il est probable qu'ils avaient des activités qui étaient partagées pour la survivance du groupe, qu'ils avaient peu d'enfants, hein, parce que c'était des nomades, ils ne pouvaient pas se promener avec 4 ou 5 enfants, c'est les femmes qui portaient ces enfants. Et donc, on avait des populations qui étaient petites, qui avaient une vingtaine de personnes ou un peu plus, et qui étaient relativement égalitaires.
Alors, partage des tâches.
Voilà.
C'est bien.
Et je ne dis pas que symboliquement, il n'y avait pas des choses que nous ne connaissons pas. Il y avait peut-être un mépris des femmes ou des attitudes ou des exclusions. Bon, ça, on ne peut pas le savoir. Tout ça, c'est dans les mots, c'est dans les actes. Mais en tout cas, au niveau matériel, au niveau de l'accès à la subsistance, au niveau des activités, il semble que le paléolithique ait été une période où on n'a pas connu autant de brimades, de sévices, de violences, que dans la période suivante, qui est celle dont vous parliez tout à l'heure, hein, celle de l'émergence de l'agriculture et de l'élevage et de la sédentarité. Hein. Et ce moment-là est certainement un moment qui a été beaucoup moins bénéfique pour les femmes.
Le début des problèmes pour les femmes. On se rencontre à Sion, Claudine Cohen, et bah, vous le savez, hein, je pense que celles qui vous ont invité, l'association Via Mulieris vous l'ont dit, il y a des tombes, hein, qui ont été retrouvées, des tombes de l'âge du fer, de la période celte en Valais, un peu comme la tombe de Vix, avec la fameuse princesse de Vix, où on voit un rôle des femmes particulier.
Hein. Oui, déjà à l'âge du bronze, on trouve, et j'ai l'impression qu'on en trouve partout, il suffit de faire un trou ici pour trouver des merveilles archéologiques, on trouve des stèles, c'est-à-dire comme des petits menhirs, hein, des statues menhirs, c'est-à-dire qui représentent des personnes. Hein, c'est des pierres qui sont gravées, parfois très finement, avec des attributs qui peuvent être masculins ou féminins. Et on en trouve beaucoup. Il y a le fameux site du Petit Chasseur, il y a plusieurs sites ici, et même très récemment, on a trouvé un grand nombre de ces stèles. Et on s'est aperçu que. Alors, ces sociétés de l'âge du bronze sont réputées être des sociétés de guerriers. Hein, c'est vraiment le début de la guerre, le commencement des guerriers. Et là, on voit effectivement qu'il y a des hommes donc, qui sont parés avec qui ont des poignards, des épées, enfin des instruments de guerre. Mais on voit aussi qu'il y a certaines de ces statues menhirs qui représentent des femmes. Et ça, c'est vrai pas seulement ici, mais dans tout le pourtour méditerranéen. On trouve en France aussi, au sud de la France, des statues menhirs féminines. Alors on s'interroge, quelle est leur signification ? Est-ce que ça représente une élite, des femmes riches, des femmes de guerriers par exemple ? Ou est-ce que ça représente des femmes de pouvoir ? Alors ce qui est intéressant, c'est que parmi ces statues menhirs, il y en a qui ont changé de sexe. C'est-à-dire qu'elles étaient des hommes, et puis on a effacé, sur l'autre côté, on a représenté une femme. Alors, il se peut, certaines interprétations nous disent que c'était peut-être des héros, des personnes qui étaient héroïsées, divinisées, hein, qui étaient là, présentées à la collectivité. Donc, si c'est le cas, on peut se dire qu'il y avait des femmes, des grandes femmes, des héroïnes, qui étaient honorées à travers ça. Alors plus tard, à l'âge du fer, effectivement, enfin, au premier âge du fer, on trouve des sépultures absolument incroyables. Vous parliez de la tombe de Vix, c'est monumentale. C'est une femme.
Elle est énorme, elle a un énorme chaudron, elle a des bijoux précieux.
C'est une espèce de vase incroyable dans lequel on sait qu'on faisait. On mettait du vin avec des épices. Et ça représente des centaines de litres. Et elle faisait des fêtes extraordinaires où on buvait. Et cette femme est parée d'un torque en or massif. Elle est parée, elle a aussi toute une veste.
Le torque, c'est un collier. Hein.
Oui, ouais. C'est un collier avec des boules comme ça qui s'arrêtent avant de faire un cercle fermé. Et puis il y a une vaisselle d'or. Il y a, elle était couchée sur une sorte de char. Enfin, une tombe absolument prodigieuse et qui ne peut honorer qu'une reine. Enfin, on a parlé de la princesse de Vix. Et donc on peut s'interroger sur son pouvoir. Certains disent que c'était probablement un pouvoir religieux. C'était aussi certainement c'est en Bourgogne, hein, Vix. C'est aussi probablement un lieu de passage. Et donc il y avait des peuples qui passaient et qui à la fois déposaient des objets.
Mais et notamment venant d'ici, du Valais. Hein, voilà. Il y avait un itinéraire à travers les Alpes, l'Italie, le Valais.
Voilà. Et ce lieu de rencontre pouvait être un lieu très riche, hein, puisque tout le monde faisait le commerce, se rencontrait là. Et donc, on peut imaginer que ces femmes avaient ce pouvoir qui était à la fois un pouvoir spirituel, mais aussi un pouvoir matériel de commerçant, et aussi un pouvoir de celui qui donne, celui qui organise des fêtes, celui qui parce que c'est pas seulement le tout de posséder, il faut aussi donner. Mmh. Et c'est dans ce don, hein, que se manifeste la puissance.
Bon, c'est fascinant en tout cas de vous écouter, d'imaginer, hein, parce que encore une fois, il n'y a pas de certitude, donc tous les horizons sont ouverts. Il faut parfois imposer quand même ce que vous appelez des hypothèses. Hein.
Quand on trouve une sépulture comme la tombe de Vix, là, il n'y a pas de doute. Il y a quelque chose vraiment qui s'est passé. Alors, il y a des gens qui ont dit que c'était une sorcière, que c'était une femme mal formée, qu'elle avait, je sais pas quoi, des os.
C'est fou comment ça grippe.
On veut absolument diminuer. Mais enfin, là, on sait que c'était une femme puissante qui avait. Mmh. Alors, c'est pas toutes les femmes, mais on sait qu'à cette période-là, donc on a trouvé la même chose sur des sites allemands et d'autres lieux où on reconnaît qu'il y a une certaine prééminence des femmes. Ce qui n'est pas le cas partout, évidemment.
C'est votre tâche, en tout cas, votre vie, hein, de mettre ces femmes, de les faire ressortir de l'histoire.
Oui, et même les femmes plus modestes, et même de montrer aussi, à l'inverse, qu'il y a des femmes qui sont maltraitées, et ça c'est le cas, hein. On trouve au néolithique, on trouve des blessures, des signes de malnutrition, et c'est là qu'on voit la maltraitance, en fait, hein. Je pense qu'il ne faut pas seulement parler des reines de la grandeur des femmes qui existaient, mais aussi de leur grandeur quotidienne, hein, et aussi de leur douleur quotidienne, de leur difficulté quotidienne. Elles avaient beaucoup d'enfants, elles devaient les élever, elles devaient s'occuper de l'agriculture, de l'élevage, des hommes, elles étaient dans une sphère privée, elles n'avaient pas accès au public. Enfin, il y a tout un tas de choses qui a émergé à cette époque-là, même si dans certains cas, on peut trouver des femmes particulièrement puissantes et honorées dans certains contextes particuliers.
Merci à vous, Claudine Cohen. Merci.